Radar.
Actu culturel.
Plus qu'une émission, une transmission. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lucas. Vous me connaissez peut-être pour avoir déjà écouté Radar l'année dernière. Et si ce n'est pas le cas, ben, tant pis pour vous. Je vous conseille donc de rattraper votre erreur et de vous jeter sur les précédentes émissions. Bien évidemment, nous sommes toujours en compagnie de Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour Lucas, mais comment vas-tu Lucas depuis tout ce temps ?
Eh bien écoute, ce matin je me suis réveillé, le nez bouché, la gorge en feu, mais je me suis réveillé motivé également puisque aujourd'hui c'est la première de Radar. Es-tu content ? Et toi, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, depuis la dernière émission de Radar, il s'est passé beaucoup de choses, mais je suis vraiment ravi de faire cette émission avec toi, puisque de toute façon je sens qu'on va passer une très bonne année à parler de cinéma et de littérature.
Mmh. Mais tu sais quoi, je suis très content aussi de recommencer l'émission et comme on dit, me too. Donc aujourd'hui, Lucas, nous allons parler d'un thème en particulier, puisque nous sommes en décembre, et que le mois de décembre, c'est quoi ? Finalement, qu'est-ce que ça signifie pour toi, le mois de décembre, Lucas ?
Eh bien, pour moi, le mois de décembre, c'est le mois où un type est né, a priori, le 25 décembre, et au final, on fête un peu son anniversaire pendant tout le mois. Mm-hmm. Voilà, et c'est aussi le souvenir, parce que... Alors, je pense que tu es le premier concerné, toi, qui aime le cinéma. Exactement. Mais c'est un peu le moment où on ressort les vieux DVD ou que les chaînes de télévision nous repassent pour la énième fois les anciens films. Je ne sais pas, par exemple, moi, mon expérience personnelle, c'est de voir sur la 1 le 23 décembre Jumanji, le voir sur la 2 l'après-midi du 24 et le voir l'après-midi du 25 sur la 6. Clairement. Donc bon voilà, j'aime toujours Jumanji, c'est vraiment génial. Mais enfin celui avec Robin Williams, on
est
d'accord.
Oui, bien évidemment, bah oui, ouais, logique, fidèle au poste.
Pas celui avec Dwayne Johnson. voilà, et puis moi en ce qui concerne la littérature, c'est un peu le moment de l'année où les gens qui ne savent pas trop faire de cadeaux, si ce n'est pas des coffrets Scorpio ou Hugo Boss, se décident pour élever un peu le niveau à offrir des livres, et la plupart du temps des livres un peu on va dire beaux, hein, avec de belles couvertures, de belles éditions pour réchauffer les cœurs.
Exactement.
Bon.
Je pense que donc toi, bien évidemment, tu es plus, tu me parlais de cinéma. Moi, je vais te parler plutôt de littérature parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime énormément lire et je sais que bien évidemment, tu as comme tout le monde des livres favoris et qui te rappellent notamment ton enfance. Et je sais qu'aujourd'hui, tu voulais nous faire part d'un de ces livres en particulier. Parle-nous-en.
Alors aujourd'hui, je vais pas faire très difficile. Je vais prendre une lecture assez accessible pour tout le monde parce que je pense que c'est quand même important de pas commencer par du high level de lecture.
C'est ça.
Mais je vous parlerai aujourd'hui du Petit Nicolas. Parce que je pense que pour ceux qui, comme toi, Lucas, ont un peu de mal à se lancer dans des ouvrages, alors que ce soit par manque de temps ou d'envie ou même par flemme, tout ce que je peux dire à nos auditeurs, d'abord, c'est pour que vous écoutez cette chronique, et plus sérieusement, en fait, c'est tout à fait compréhensible, et je vous ai pris aujourd'hui Le Petit Nicolas, donc une série de livres illustrés d'environ 150 pages chacun, des recueils de petites histoires teintées d'humour et de gaffes imaginées à partir de l'enfance de ses créateurs, et que vous pouvez retrouver dans vos librairies rayons littérature jeunesse. Alors, avant de vous parler de l'œuvre, quand même, pourquoi je l'ai choisi, au final ? C'est vrai, c'est ça la question, parce que tu dis que c'est un souvenir d'enfance. Eh ben, c'est vrai, parce que je me souviens avoir lu, pour la première fois, Le Petit Nicolas, un livre, Le Petit Nicolas, qui appartenait à ma sœur, et que j'avais trouvé une fois sur la table du salon, et je m'étais dit, pourquoi ne pas le lire ? Et depuis, je me suis beaucoup attaché aux personnages, à l'univers, et ce qui m'a amené à lire de plus en plus, aussi bien des Petits Nicolas que d'autres livres de littérature jeunesse. Et c'est à partir de ce moment-là que j'étais un peu introduit, on va dire, à la lecture, même si à côté de ça, il y avait aussi pas mal les bandes dessinées. Donc, je vais quand même clarifier un peu la chose. Aujourd'hui, je vais vous parler du Petit Nicolas, mais pas celui de l'affaire Kadhafi ou du Temps des Tempêtes sur Audible, mais bien de l'enfant d'un des plus grands couples homoparentaux de l'histoire, parce que sache une chose, Lucas, c'est que j'ai décidé aujourd'hui de faire dans l'inclusivité. C'est important.
C'est bien.
Et de quel couple s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'abord du légendaire scénariste René Goscinny dans le rôle du parent 1. Et je vais juste m'arrêter deux secondes pour parler de René Goscinny, parce que je vais te poser une question, Lucas, mais qu'est-ce qu'il a fait, René Goscinny, à part le petit Nicolas, quand même ? Parce que c'est quand même un nom assez connu de la littérature jeunesse en France.
Oui, effectivement, mais René Goscinny, moi je suis plus histoire avec René Coty, l'homme qui a mis en avant et qui a fait revenir au pouvoir le grand Charles de Gaulle. Je sais que tu as des palpitations quand je le dis, mais René Goscinny, plus sérieusement, je pense que c'est peut-être Astérix.
Eh ben, tout à fait, oui, parce que j'allais te dire un petit Gaulois qui prend une gourde avec une potion magique qui le rend surhumain, eh bien oui, c'est effectivement Astérix. Mais un autre, un cow-boy qui tire plus vite que son ombre.
Moi ?
Non, pas du tout. Ok,
Lucky Luke,
mais on n'est pas très loin, effectivement, c'est Lucky Luke. Ouais. Voilà, donc René Goscinny dans le rôle du parent 1... et qui, évidemment, a écrit et a été à l'origine de nombreuses œuvres qui ont marqué, je pense, petits et grands. Mais dans le rôle du parent 2, qui est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, il y a Jacques Sempé, qui nous a malheureusement quitté en août dernier, qui est vraiment un très grand dessinateur qui avait pu dessiner pour de grands magazines américains. Et donc, eh bien, ce duo a fait naître le petit Nicolas et ses copains. Et évidemment, le petit Nicolas nous raconte à la première personne ses histoires, ses petites histoires à partir de 1956 dans divers journaux. Mais le public, à partir de cette année-là, se l'arrache et en redemande. Et c'est la raison pour laquelle un éditeur du nom d'Axel Graal travaille à la parution du premier livre de compilation Le Petit Nicolas, en 1960, après l'avoir découvert, et je pense que ça va te faire plaisir, Lucas, pendant des vacances sur la Côte Basque. Alors, il faut savoir que ce sera un immense échec, comme l'admettra lui-même Sempé un peu plus tard. En 1960, les livres Le Petit Nicolas n'ont pas vraiment grand succès, et pourtant, entre 1960 et 1965, paraissent les 5 volumes qui deviennent plus tard des références, comme par exemple les vacances du Petit Nicolas. Et c'est donc à l'occasion de la sortie du film d'animation Le Petit Nicolas en octobre dernier, mais qui n'a vraiment pas fait grand bruit, je pense.
Ouais, je crois pas.
Donc oui, parce qu'en fait, c'est je vais revenir un peu plus tard dessus.
Ouais.
Mais c'est à l'occasion de la sortie du film que j'ai eu un petit rappel et que j'ai eu envie de relire le Petit Nicolas. Et je vais vous faire un petit topo sur comment se présente ce chef-d'œuvre. Alors, on y retrouve quoi finalement dans les histoires du petit Nicolas ? Comme je l'ai dit, on y retrouve pas mal de petites références à l'enfance de Goscinny et de Sempé, que l'on peut prendre comme des anecdotes drôles et écrites dans une langue simple mais soutenue, qui pourrait faire penser à l'image classique du petit écolier des années 50-60 que l'on a couramment en tête, notamment à cause de films comme Les Choristes avec Gérard Jugnot.
Que j'ai détesté. Ouais,
on t'a pas demandé ton avis. Mais non, je te dis. Mais en effet, bon, on se retrouve dans un univers en lien avec ce qui représente le modèle type de l'écolier républicain de l'époque. Et comme diraient les rugbyman, il y a surtout dans ces histoires les copains. Et ces copains, on en retrouve une multitude, avec chacun un caractère qui lui est propre. Alors il y a d'abord Agnan, le petit intello, Alceste, le gros mangeur, Geoffroy, le fils à papa, Eudes, le cogneur, Rufus, le fils de gendarme, et j'en passe. Et ensuite vient la relation de ces derniers avec leur maîtresse, à qui ils sont attachés malgré la pagaille qu'ils sèment pendant les cours. De même, il y a le Bouillon, le pion un peu austère, qui je pense nous avons tous eu, que ce soit en primaire ou au collège ou même au lycée. S'ajoutent aussi, bien évidemment, les parents, mais cette fois-ci, les vrais parents de notre héros. Bref, le petit Nicolas, c'est beaucoup de personnages, tous bien identifiables, et que l'on peut rapprocher à des gens que l'on connaît. Je veux dire, on a tous connu peut-être un Eudes, je sais pas toi, Lucas, on a peut-être connu quelqu'un qui aimait bien se bagarrer dans la cour de récré.
Oui, même plusieurs.
À chaque fois, voilà, après...
Au Pays Basque, où on l'est pas, hein.
Ouais,
donc,
ouais.
Tu sais,
voilà,
c'est comme ça.
J'allais pas trop m'avancer, mais tu m'as coupé la parole. Pour pour certains, enfin c'est certain, tous ces personnages y mettent un peu du leur pour donner aux ouvrages leur caractère universel et intemporel. Et pour donner un avis sur cette série que j'adorais quand j'étais enfant, eh bien je pourrais bien dire que je m'y suis pas mal retrouvé au final dans ces histoires, que ce soit aussi bien maintenant que quand je les lisais pour la première fois. Mais il faut savoir que ça ne tient pas forcément qu'aux personnages, mais surtout à la mise en scène de ces histoires. En effet, les histoires du petit Nicolas sont assez brèves et se présentent comme des scènes du quotidien d'un écolier, bon, avec parfois de l'exagération, hein, jusqu'à la chute, parce qu'il faut savoir qu'il y a très souvent des chutes qui rendent le tout drôle ou mignon, selon les goûts de chacun. Les sujets qui y sont abordés sont très divers. Il y a le bouquet de fleurs pour la maman, le match de foot avec les copains, l'absence de la maîtresse, etc. Bref, des moments que nous avons peut-être tous connus un jour ou l'autre et qui font remonter des souvenirs. Le tout teinté de comédie, par exemple dans le cadre du match de foot, Alceste oublie le fameux ballon qu'il était fier de présenter à ses copains. Le petit Nicolas, quand on a 20 ans, est donc déjà un élément de nostalgie, aussi bien pour ceux qui l'ont déjà lu enfant ou non finalement, et il ne faut pas non plus s'imaginer que ces petits-enfants sont tous et toujours innocents. Alors, je vais revenir sur une impression que j'ai eue dernièrement quand j'ai relu Le Petit Nicolas, mais après avoir relu le premier volume, je ne me suis pas souvenu à ce moment-là de la nouvelle où Le Petit Nicolas fumait un joint. T'imagines ça, Lucas ?
Ouais, non, mais là, pour le coup...
Ouais.
Tu non, me laisses sans voix.
Ouais, et ben sache qu'en réalité, en fait, non, c'était pas en juin, mais le gros Alceste amène un cigare. Et oui, mais il faut quand même bien préciser. En fait, Alceste amène un cigare et invite notre héros à essayer ce fruit défendu. Mais je reviendrai peut-être un tout petit peu plus tard sur cette histoire parce que je pense qu'elle mérite un apport contextuel sur pourquoi, finalement, cette histoire est assez drôle. Donc on a droit dans cette nouvelle quand même à des illustrations qui m'ont fait exploser de rire, du genre deux gamins dans un terrain vague en train de s'en fumer une, bien discret, loin des regards et en séchant les cours évidemment. Et s'il fallait utiliser un autre terme bien familier pour définir ces histoires, bon bah je pense que là je viens d'en donner un exemple, c'est un peu la connerie des enfants. Voilà de quoi de plus vendeur pour divertir petits et grands, faisant du petit Nicolas un classique au fil des années, devenu un véritable succès en librairie. Les ingrédients sont tous réunis pour attiser le flair de producteurs véreux en besoin d'une licence célèbre et parlante pour tout le monde, afin de faire de l'argent sans trop d'efforts. Je ne vais évidemment pas m'étaler sur l'adaptation cinématographique du petit Nicolas sorti en 2010 avec Canmerade, qui fait part de la multitude de films que vous retrouvez dans Ciné Dimanche sur la Une et qui nous rappelle que celui qui joue Patoche dans Le Flambeau a participé un peu à pourrir un peu l'image du petit Nicolas. Mais je vais revenir juste rapidement sur justement l'adaptation récente qui est sortie au mois d'octobre. Ouais. C'est que c'est une adaptation qui n'a pas fait grand bruit, peut-être parce que justement c'était une adaptation faite à partir de dessins, donc c'était vraiment un film d'animation. Il n'y avait pas de grands acteurs, etc. Il n'y avait pas un gros casting, mais les dessins se rapprochent énormément de l'œuvre originale, et c'est ce qui, pour ceux qui aiment Le Petit Nicolas, donne quand même bien envie d'aller le voir.
Pour les grands nostalgiques, un peu, je pense que ça passe pas mal.
Et c'est très, très sympathique. Enfin voilà, à part ce petit pic contre l'adaptation au cinéma, je reviens sur l'œuvre originale que je ne peux que conseiller de lire ou de relire, d'abord pour le contenu des histoires, mais aussi par la forme et les illustrations qui rendent le tout très divertissant. En plus, c'est très rapide à lire, les nouvelles ne font même pas une dizaine de pages, et encore que, tout ce que je peux vous dire, c'est n'ayez pas honte de lire Le Petit Nicolas, histoire de ressentir de la nostalgie ou de rire un bon coup, n'ayez pas honte d'aller voir le libraire et de lui demander Le Petit Nicolas pour vous, même s'il va vous regarder avec des yeux un peu bizarres en mode, mais vous n'avez pas 9 ans en fait, pourquoi vous lisez ça, mais c'est pas très grave. Et en plus de ça, si vous lisez Le Petit Nicolas, c'est un geste de défiance envers les Américains qui essaient depuis quelques années de nous shipper notre idole en exportant d'autres œuvres comme Le Journal d'un dégonflé, que j'avais aussi bien aimé étant enfant.
Ouais, il est pas mal, hein.
Ouais, non, franchement, c'est bien. En plus de ça, l'adaptation cinématographique a priori est assez drôle.
Ouais.
Enfin, après, moi je sais pas, je l'avais pas regardé.
Ça reste quand même très très gênant, je trouve.
Ouais. Bah après, c'est un peu le principe du journal d'un dégonflé. Ouais.
C'est clair.
C'est un peu le but du truc.
Ouais.
Mais voilà, c'est quand même très sympathique, mais ça ne doit pas remplacer celui qui a diverti des générations de petits Français et qui, je l'espère, continuera de le faire longtemps. Mais alors, Lucas, Puisqu'on a parlé des Américains, de l'export de littérature jeunesse américaine en oui. France, j'en viens à terminer cette chronique sur un petit point historique qui pourrait t'intéresser.
Ah.
Parce que je ne sais pas si tu connais la loi du 16 juillet 1949, Lucas.
Non, je ne la connais pas.
Tu ne la connais pas ? Bon, non. Eh bien, laisse-moi t'en parler, parce que je pense que c'est important, notamment pour un étudiant en histoire, de la connaître.
Exactement.
Puisque, eh bien, en 1949, la période de reconstruction de la France, les dirigeants se disent que la jeunesse qui arrive ne doit pas être corrompue, entre guillemets. Mais c'est-à-dire... Ben, en fait, on tenait à cette époque un discours un peu conservateur et surtout assez moralisateur, comme dans les années 90 où les politiciens faisaient le tour des plateaux télé pour vous dire que les mangas, c'est mal, comme par exemple Ségolène Royal qui était très opposée à ce soft power nippon et qui n'hésitait pas à aller le dire sur les plateaux télé.
Okay.
Eh bien, en 1949, on est dans la même situation, à la différence que la puissance culturelle dominante, c'est les États-Unis. Et qu'est-ce qu'on retrouve aux États-Unis dans la littérature, surtout la littérature jeunesse, les bandes dessinées ? Eh bien, de la violence, de la nudité, le côté sensuel des personnages de BD, notamment dans les comics, et l'utilisation d'armes ou la consommation de produits illicites sont chassés par une espèce de commission de censure qui est instaurée à la suite de cette loi du 16 juillet 1949. Et qui est dépendante du ministère de la Justice, qui a pour intérêt de protéger, au final, l'industrie de l'édition française dans la littérature jeunesse face à l'ogre anglo-saxon. Et on est donc sur une loi qui permet eh bien, l'émergence de la littérature franco-belge, au final. Je vais revenir un peu dessus, puisque c'est bien, justement, que le petit Nicolas fume un gros cigare du moment que la chute de l'histoire consiste à ce qu'il tombe malade. C'est un moyen de prévention comme un autre. En revanche, dans les années 60, les petits Français n'ont qu'un accès très restreint aux comics et aux autres formes de littérature jeunesse, qui sont suivies plus rigoureusement par les autorités, méfiantes des messages qui sont diffusés. Ce qui favorise eh bien, justement l'émergence de l'école franco-belge de bande dessinée avec, je pense que tu connais Tintin.
Tintin.
Tu connais Tintin ?
Oui, je connais
Tintin. Eh bien voilà, eh bien, c'est un peu profité justement cette loi à la diffusion de Tintin sur le territoire français.
D'accord.
Ou par exemple à Spirou. Car oui, je terminerai là-dessus Lucas, mais la France des années 1960, c'est un régime où le président est un militaire avec les pleins pouvoirs, avec une police secrète, une seule chaîne de télévision et où toute l'information est contrôlée par l'État. Et cette France, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est la France du général de Gaulle.
C'est voilà, une belle référence. C'est
tout pour... ouais, effectivement. Les vrais le reconnaîtront.
Les vrais le reconnaîtront, exactement. Mais tu sais, Lucas, j'ai une question à te poser parce que, en t'écoutant, je me suis dit, grand nostalgique du petit Nicolas, je me dis, quel type d'élève tu étais ? Tu étais plutôt Agnan le petit intello ou Eud le bagarreur ?
Alors, ça dépendait un peu. Quand j'étais en cours, j'étais Agnan.
D'accord.
Parce que j'étais vraiment le chouchou de la maîtresse et enfin des incites. Et en fait, pour anecdote, je me souviens surtout une fois en CE2, j'avais pleuré parce que j'avais eu un 17.
Ah là là.
Voilà.
C'est
et,
vrai qu'il faut une mauvaise note.
Et c'est pour te dire à quel point j'étais assez proche du personnage d'Agnan quand j'étais en primaire.
Ouais.
Par contre, quand il s'agissait de jouer au foot, j'étais un peu comme Eud parce que je n'aimais pas perdre et j'hésitais pas à faire des petits coups bas à mes adversaires. Oui, comme par exemple les tibias ou par exemple juste mettre des gros coups d'épaule pour qu'il se rétame la gueule dans le gravier, qu'il se fasse mal. Mais c'était la bonne époque.
La nostalgie
voilà.
Du petit Nicolas.
Effectivement, effectivement, voilà. Mais, et toi, Lucas, t'étais qui en fait
Moi, j'étais qui ? Alors, bon, en vrai.
T'étais comment ?
J'étais comment ? Je pense que j'étais plus Agnan, mais surtout à partir du collège, parce que quand j'étais au primaire, en fait, j'avais des cours en basque.
Ouais.
Et il se trouve que j'étais très mauvais en maths, mais non pas parce que j'étais nul en calcul, hein, puisque je sais très bien que 2 plus 2, c'est 6, mais parce que je ne comprenais pas. Les consignes que me donnait la prof. Et bien évidemment, quand tu as quelqu'un à côté qui se fait déchirer parce qu'il rate ses exercices et que la prof louche également sur ton cahier pour voir si ça va et qu'elle se rend compte que tu es vraiment perdu, eh bien, elle t'humilie, elle te fait partir au tableau et tu finis en pleurant. Donc voilà, j'étais ce genre d'élève traumatisé.
D'accord.
Jusqu'à la sixième.
Très bien.
Voilà.
Ah, mais c'est formidable,
les
franchement.
Les petites anecdotes.
Ah, mais vraiment.
Tout ce qu'il y a de plus heureux, finalement.
C'est vrai, c'est fou, ça, quand même. Mais bon, voilà.
Je sais que tu es un grand nostalgique également de musique.
Ouais. J'allais venir dessus, effectivement.
Exactement, tu vois.
Ouais. Tu lis dans mes pensées. Ouais, c'est dingue. Ça. C'est incroyable.
Magnifique.
Ouais. Et ben, du coup, on va rester dans la thématique de la bande dessinée franco-belge, mais j'ai décidé de vous prendre une musique bien française que tout le monde connaît bien, qui est L'Aventurier de Indochine, que j'adorais quand j'étais gamin. Et il se trouve que les paroles, je pense que tout le monde a dans la tête Bob Moran contre tout chacal, mais qui c'est en fait Bob Moran? C'est le héros d'une œuvre éponyme de bande dessinée qui a été écrite par Henri Verne, un auteur belge, dans les années 50, et qui est encore assez populaire aujourd'hui. C'est un peu l'équivalent de Corto Maltese. Voilà. J'avais d'ailleurs mon père qui était très fan de Corto Maltese. Bob Moran, en fait, c'est un peu dans la même veine. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que non seulement c'est assez bien de vous diffuser L'Aventurier d'Indochine, parce que d'abord j'aime bien ça, que tout le monde aime bien ça, en fait, et que en plus, c'est assez proche de la thématique que j'ai choisie pour aujourd'hui. Voilà.
Nickel. Eh bien, je vous propose qu'on écoute Bob Moran, du coup.
Ouais.
Et voilà, on se retrouve juste après. Eh bien, c'était l'aventurier. Alors, tu es content d'avoir réécouté cette chanson?
Mais comme toujours, ouais, très content de l'avoir réécouté, puis
C'est vrai
je
qu'elle est pas
pense que
mal, mais tu
ouais.
vois, je la connaissais. Je connaissais pas le nom, mais je la connaissais.
Eh bien, maintenant, tu pourras dire, j'ai écouté l'aventurier,
J'ai
c'est
écouté
fou,
l'aventurier.
c'est dingue,
C'est
c'est
dingue.
dingue. Bon alors, maintenant, c'est à ton tour,
Oui, c'est
Lucas.
à mon tour
Tu...
de
Alors,
faire part un petit
ouais,
peu de.
tu vas nous parler de cinéma.
Oui, je vais parler de cinéma. Et donc oui, bien évidemment, écoute, pour ma part, je vais aborder quelques films de mon enfance qui ont tendance à souvent revenir, donc durant la période des fêtes notamment, comme on l'avait dit tout à l'heure, puisque comme tu le sais, en décembre, c'est une période assez nostalgique. J'ai même envie de dire que c'est limite une tradition, notamment pour moi. Chaque année, j'ai tendance à revoir certains films que je regardais petit et que je revois de temps en temps. Le premier film que je vais présenter, c'est Willow. Donc Willow, il est passé d'ailleurs la semaine dernière. Il est passé la semaine dernière, donc c'est un très bon film que j'aime beaucoup et qui fait partie justement de ces films de mon enfance. Donc si vous ne connaissez pas Willow, c'est avant tout un film d'aventure se déroulant dans un royaume imaginaire, et donc il est à la fois allez, science-fiction, fantastique et fantasy. Il se rapproche notamment d'un univers comme celui du Seigneur des Anneaux. Je sais que tu adores le Seigneur des Anneaux, Lucas.
Oui, j'adore Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai, c'est vrai, c'est
Voilà,
vrai.
donc je pense que ça pourrait être un film qui pourrait te plaire. Donc si tu ne l'as pas vu, je crois que tu ne l'as pas vu.
Eh bien, je regarderai Willow, du
Ok,
coup. Ouais.
ben voilà, tu vois, tu vois là déjà, je suis content. Et donc, Willow, c'est quoi? Donc c'est dans un royaume. Donc ce royaume, il est peuplé par des nains appelés Nelwyn, donc dominés par les Daikini, des personnes de grande taille, avec à leur tête la reine Bavmorda, donc qui se lance à la poursuite d'une enfant, encore bébé, dont la prophétie annonce qu'elle détrônera donc la reine tyrannique Bavmorda. C'est pourquoi cette reine ordonne alors le massacre de tous les de tous les nouveau-nés du royaume au final, pour être sûr en gros de pas être détrôné. C'est un petit peu l'idée. C'est donc Willow qui va se retrouver avec cet enfant, avec Elora, donc il la recueille, donc elle est encore bébé, et le problème c'est qu'il va mettre bien évidemment tout son village en danger, puisque la reine veut la peau de Elora, et donc il va se lancer, donc Willow, dans une quête, celle de ramener l'enfant au sien. Donc sur la route, il croise notamment Mad Martigan, Val Kilmer à la grande époque, celui de le premier Top Gun, hein, pas le
Ouais.
Maverick au final, hein. Et d'ailleurs que tu as vu il n'y a pas longtemps, donc tu as pu voir l'état de Val Kilmer actuellement, qui fait un peu, voilà, c'est assez triste.
Il est même mort dans le film.
Oui, dans le film,
Ouais,
oui,
ouais.
dans le film. J'ai eu un coup de pression là. Tu vois, j'ai eu un coup de pression. Donc voilà, ce fameux Mad Martigan avec qui il vivra une véritable aventure. Donc pour la petite anecdote, il se trouve que Val Kilmer, alias donc Mad Martigan, a rencontré sa première femme, Joan Whaley, sur le tournage, tout comme Warwick Davis, donc Willow, qui lui aussi a rencontré donc l'amour de sa vie sur le tournage. Donc finalement, c'est plutôt sympa comme anecdote, c'est toujours bon à savoir. Donc Willow, pour moi, c'est quand même un chef-d'œuvre dans le genre heroic fantasy. Donc si vous êtes du genre à apprécier des films comme Le Seigneur des Anneaux, je pense qu'il pourrait totalement vous convaincre. Tu vois, quand je te parle de quête, il y a un petit peu cette idée de quête aussi dans Le Seigneur des Anneaux.
C'est vrai, c'est vrai, c'est
Tu
vrai.
vois?
Mais alors, petit aparté quand même,
Oui.
à propos du scénario de Willow,
Oui.
ça me rappelle un livre très connu.
D'accord.
D'ailleurs, j'ai une édition préfacée par l'auteur lui-même
D'accord.
chez moi. C'est la Bible. Voilà, non, c'est.
Mais
Non!
vraiment, en plus, je l'ai pris sérieusement, quoi. Tu vois, c'est ça le pire, en fait. C'est ça le pire.
C'est le problème, c'est que les auditeurs ne pourront pas voir ta tête.
Oui, c'est vrai que ma tête.
Mais c'est vrai. Non, en fait, ça me rappelle vaguement l'histoire de. Tu sais, de. Ben, ça me rappelle un film d'animation. Je sais plus comment il s'appelle, mais.
Shrek.
Alors, un peu pareil. Non, c'est. Tu sais, l'histoire sur Moïse.
D'accord,
C'est
ouais.
l'époque où c'était
Ah
super stylé de
oui.
faire des films d'animation
Bah
sur des
oui.
personnages bibliques.
Ok.
Mais c'est un peu la même idée, tu sais, l'idée de ouais, on va tuer des nouveau-nés, comme ça évitera des malheurs.
Des
Je sais
ouais,
pas
des
pourquoi
mauvaises
ça m'a
prophéties.
fait penser à ça quand t'en as
Ok,
parlé,
bah
je sais
écoute,
pas.
Bah, à la rigueur, tu peux le voir, comme ça tu pourras me dire ce que t'en penses et
ouais.
justement pour en parler. Hein.
Mais c'est très sympa en tout cas, puis j'aime beaucoup ça. Ça
T'aimes
me donne
bien
envie. Ouais. Okay. Ouais, ouais.
Bah, écoute, je vais essayer de continuer à te faire rêver. Donc la musique donc, de James Horner, elle est incroyable. Hein. Elle est du genre à faire frissonner. C'est pour ça que bon, quand on me parle de Willow, j'ai la musique en tête. Je vais pas vous la fredonner, je préfère pas. L'histoire, elle est très bien construite et elle est assez poétique. Bon, les acteurs, bien évidemment, sont excellents. C'est un film pour les enfants quand même, même si personnellement il me faisait assez peur quand j'étais petit. Il y a cette fameuse scène avec un dragon à deux têtes. On va dire que bon, il ressemblait pas à grand chose, hein. Il était quand même assez moche. Il n'était pas très très bien fait, mais il faisait quand même peur quand on est petit, on est moins regardant sur ce genre de choses. Et je trouve qu'au final, ça va dans le mood du film, je trouve que ça passe plutôt bien. Donc voilà, c'est quand même un film pour enfants dans le sens où il y a quand même des personnages qui sont assez romanesques, ils ont du courage, ils sont grands par leurs actes, et il y a des guerriers et des magiciens, comme dans Le Seigneur des Anneaux, pas Le Silence des Agneaux d'ailleurs. Donc le film, il est quand même assez original et très créatif. C'est ce genre de film qui me rend assez nostalgique, qui me rend assez nostalgique de cette époque dans laquelle je peux me replonger. À cette époque-là, la période hivernale, devant la télé, quelques couvertures sur le dos, la cheminée allumée qui éclaire la pièce, et avec ces films de mon enfance, et que beaucoup appréciaient également, et j'espère qu'il y en a certains qui reconnaissent ce genre de sensation. Donc bien évidemment, Willow, c'est un film donc, qui me rend nostalgique, bien évidemment, mais je me demande si c'est pas plutôt cette époque-là qui me rend finalement nostalgique. Donc, de plus, si vous aimez Willow, que vous l'avez déjà vu, ou que vous le voyez, que vous avez beaucoup aimé, il faut bien évidemment savoir qu'il y a une série qui est sortie en 2022. Donc, elle est totalement raccordée avec le film d'origine, et qui s'avère, donc, selon les critiques, du moins, être une bonne série. Personnellement, je ne sais pas trop si je vais la regarder, mais j'ai un petit peu peur d'être déçu et je crois que j'ai bien envie de rester juste sur la première de Willow en fait au final. Donc voilà pour Willow dans un premier temps. Et je voulais parler d'un deuxième film. Je sais que celui-là tu l'as vu, Lucas, c'est à peu près sûr. C'est Les Goonies.
Ouais, je l'ai vu il y a fort fort longtemps. Enfin, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je me souviens l'avoir vu, oui.
Quand ouais, même. Tu te souviens quand même l'avoir
avec,
vu. C'est bizarre ce genre de film, pourtant on s'en rappelle quand même.
C'est vrai, surtout avec la tête du gars un peu déformé.
Ouais, voilà.
Je sais plus comment il s'appelle.
Mais
voilà.
Te ramener à en parler.
Ouais, enfin, forcément.
Donc tu vois, ça coïncide ouais. aussi. Donc bien évidemment, Les Goonies, c'est quand même un incontournable du cinéma. C'est la pépite imaginée par Steven Spielberg, qui retrace l'aventure de ces gosses animés par leur soif d'aventure en suivant une vieille carte au trésor qui les mène dans des cavernes souterraines construites au XVIIe siècle par un pirate légendaire nommé Willy le Borgne. Face à eux, les Fratelli, une famille de criminels loufoques recherchés par la police qui se lance eux aussi à la poursuite du trésor. D'ailleurs, petite anecdote, Spielberg a pu glisser une petite référence à l'un de ses cultes, puisque dans l'une des scènes où l'on peut voir Choco appeler la police, l'agent au bout du fil pense à une blague et lui rappelle la fois où il lui avait fait croire, donc Choco, que des petites créatures qui se multiplient au contact de l'eau envahissaient la ville.
Les Gremlins.
Exactement.
Les Gremlins.
Ah. Est-ce que tu l'as vu du coup?
Ah, moi j'adore les Gremlins.
T'adores les
ouais,
Gremlins.
J'adore les Gremlins. Ah ouais. Non, franchement, ouais, j'adore.
Ouais, bah écoute, bon, mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Moi aussi j'avais bien aimé quand même. C'est quand même un culte aussi, hein, ouais. finalement. Et donc il a glissé pas mal de références en tout genre, notamment pour ses films. Si vous revoyez Les Goonies, vous pourrez vous intéresser un petit peu plus à cette face-là, ça peut être sympa. Donc les références, elles sont cachées ou pas, hein, parce que bon, là, ça l'est clairement pas. Hein, franchement, on arrive bien à cerner la chose. Bon, en vrai, Les Goonies, c'est quand même l'un des films. C'est un film qui m'a quand même vachement marqué. C'est un film de mon enfance et je pense que ça l'est pour de nombreux grands enfants comme moi. Il m'a particulièrement marqué car j'ai l'impression, comme la plupart des films de mon enfance, j'ai été légèrement perturbé, notamment, comme tu le disais, par Sinoc, le fameux personnage déformé, bien évidemment, mais surtout par l'un des acteurs en particulier que je trouve immense dans son rôle, c'est Robert Davi, celui qui ne s'arrête jamais de chanter dans le film, qui est souvent au contact, qui est avec Sinoc, dans la cave. Tu vois à peu près lequel c'est ?
Non.
Non ? Bon, non. Tant pis. Mais si tu le revois, tu pourras voir. Et franchement, tu pourras le plus, voilà, ouais. Jeter un œil à ce personnage. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est mon acteur favori dans le film. Donc après de nombreuses années, c'est un film que je regarde à nouveau avec grand plaisir. C'est un peu un Indiana Jones pour enfants, j'ai envie de dire. En plus de cela, il essaye par toutes ses mises en scène de prôner des valeurs fortes, forcément. C'est un petit peu un film pour enfants, encore une fois. Même si bon, ça peut traumatiser, hein, bien évidemment. Mais bon, il y a des valeurs fortes comme l'amitié, l'autonomie et l'entraide, même dans le handicap, puisque il s'avère que Sinoc va sauver les enfants au final. Donc c'est des valeurs importantes à inculquer aux enfants, j'ai envie de dire. Un film qui suscite bien évidemment la soif de curiosité des enfants. Finalement, ce qui est très fort avec les Goonies, c'est que ce film est autant pour les adultes nostalgiques que pour les enfants en quête d'aventure. Et c'est ça qui est bien avec les Goonies. Et j'ai dû le voir bien 5-6 fois, je pense.
Ah, d'accord.
Ouais.
Okay.
Non, franchement, ouais.
D'accord. Ouais.
Bah, depuis le temps, franchement.
Ouais.
Je pense que ça doit être à peu près par là. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a quelques acteurs qui sont revenus sur le devant de la scène. Excusez-moi. Notamment, je sais que Lucas, tu en connais un, une idée ?
Ah, non.
C'est pas grave si t'as pas le
ouais,
nom.
Ouais, j'ai pas le nom.
Non, t'as pas le nom. Mais j'ai dans une série très connue.
Friends ?
Non, pas Friends.
On sait jamais. Non, je
non,
sais pas.
Pourtant, il a une tête très amicale, effectivement.
Ouais, c'est vrai.
Il a une tête très amicale.
C'est vrai, si tu me dis, c'est qu'il doit avoir une tête amicale, j'imagine. Non, je sais pas, il va falloir me donner un indice sur cette série.
Un indice sur cette série, bien la saison 4 qui est sortie il y a pas longtemps. Ouais, je dirais, c'était quoi, c'était cet été ?
Ah, bah, Stranger Things.
C'est Stranger Things.
Ouais,
effectivement.
Ouais.
Et je sais que tu es un grand fan de Stranger Things, donc tu dois forcément connaître Sean Astin, qui donc joue le rôle de Mickey dans les Goonies et qui joue donc le copain de
le copain de je ne sais plus comment elle s'appelle.
Moi non plus.
C'est vraiment
plus.
Terrible. Bon, enfin, on va dire le beau-père en CDD de Will.
Exactement. Voilà c'est ça. Ouais. Exactement. Voilà.
D'ailleurs, acteur qui joue toujours des personnages super sympas. C'est fou quand même.
Et après, des grosses victimes aussi.
Aussi, c'est vrai.
Ouais,
c'est
parce
vrai,
que, on se rappelle de la fin. Hein.
Ouais.
Forcément, sans spoiler. Hein. Ouais. Mais bon, je me doute que les gens qui voulaient regarder Stranger Things l'ont déjà vu. Et il a joué aussi dans Le Seigneur des Anneaux.
Et oui, c'est lui qui joue Sam Gamgee. Et
exactement.
Ça m'avait beaucoup marqué quand j'ai regardé Stranger Things parce que je me suis dit, mais waouh, c'est dingue.
Tu vois. Ouais.
C'est fou. Enfin,
c'est fou.
Waouh, j'étais en mode, Sam Gamgee.
Il a grossi.
Oui, c'est vrai, mais ça c'est pas très important.
Non, c'est vrai que c'est pas très important.
L'essentiel, c'est que c'est beau de se reconvertir comme ça après avoir fait. Un film incroyable.
Mais tu sais pourquoi je te parle du fait qu'il est grossi ? Tout simplement parce que Choco dans les Goonies, donc qui est quand même un petit peu enrobé, on va pas se le cacher, justement a été traumatisé parce qu'il a reçu énormément de messages de harcèlement. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce genre de comportement au final, mais pas mal de harcèlement par rapport au fait qu'il était gros justement. Et en fait, ça l'a totalement dégoûté du cinéma et il a totalement arrêté le cinéma. Et il a fait un régime mais vraiment draconien. Donc aujourd'hui, bon, il est très sain pour le coup. Et il est avocat. Donc franchement, il y a des destins qui sont totalement différents, quoi. Et bien évidemment, Josh Brolin, qui joue le grand frère de Mickey, donc qui a une grosse carrière avec quand même quelques chefs-d'œuvre comme No Country for Old Men ou encore Hollow Man, même s'il n'a pas le rôle principal dans Hollow Man, mais No Country for Old Men quand même qui reste assez incroyable. Et puis donc bien évidemment les autres qui sont restés assez anonymes, donc comme Jeff Cohen, donc Choco. En parlant de gamins dans les films cultes, je suppose que tout le monde connaît au moins le nom de ce fameux gamin dans Maman, j'ai raté l'avion. Bien évidemment, comment il s'appelle ?
Je sais plus, mais je sais pas, moi, il me fait toujours rire.
Franchement, je ne veux blesser personne, mais il a un nom à gifle, une tête à gifle, j'ai envie de dire.
Kevin ?
Kevin, voilà.
Il s'appelle Kevin. C'est Kevin. Fou parce qu'instinctivement, j'ai pensé à Kevin en fait.
Mais c'est vrai, tu le savais ou pas?
Non, mais pas du tout. Je savais vraiment pas. C'est
tu
juste
vois, comme quoi, voilà. Je,
ouais.
Voilà.
Ouais.
Mais au moins, je pourrais commencer à faire des. Je pourrais commencer à faire des petites références comme ça. C'est bien. On est connecté. Très bien.
Ouais.
Et donc voilà, Kevin de Maman, j'ai raté l'avion, et j'étais très surpris parce que la dernière fois, je suis parti sur Disney+ et j'ai vu Maman, j'ai raté l'avion. Ça recommence. Et je me suis dit, ça recommence, mais ça pue sacrément. Ouais. Et effectivement, j'ai regardé 5 minutes et je me suis arrêté parce que, je vous le dis, c'est éclaté. C'est vraiment, genre, le pire début de film que j'ai pu voir de ma vie.
Ah oui, pire début, mais peut-être que la fin est légendaire.
Non, ouais, peut-être que la fin est légendaire, mais je n'ai même pas envie d'aller plus loin. Et aussi, j'ai vu aussi, je t'en avais déjà parlé justement, mais il va y avoir un Grinch, puisque c'est la période de Noël et ces fameux films qui repassent tout le temps. Le Grinch repasse tout le temps avec Jim Carrey.
Ouais.
Et il y a un Grinch version film d'horreur qui va sortir. Donc déjà que Jim Carrey était assez flippant, je pense que ça va bien donner, en tout cas j'espère. Donc voilà, ne regardez surtout pas « Maman, j'ai raté l'avion », ça recommence, surtout pas. Voilà. Eh bien, écoute, j'étais très content de faire cette émission, Lucas.
Ouais,
on arrive au terme de cette émission.
Tout pareil.
C'est triste.
Ouais, on arrive déjà à la fin, mais ce n'est que le début de la saison de Radar.
C'est que le début, exactement.
Ouais, ce n'est que le début. Ça ne fait que commencer.
Ça ne fait que commencer.
Ouais.
Mais tu sais quoi ? Avant de conclure, Lucas, l'émission, il faut que je te dise, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grand-mère, et donc je souhaitais, finalement, un très bon anniversaire, donc, et des gros bisous, bien évidemment, à ma grand-mère.
Eh bien, joyeux anniversaire également, hein.
Merci pour elle, finalement. Et donc voilà, joyeux anniversaire. Et bien évidemment, à tous nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Nous reviendrons très vite pour une nouvelle émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Ce n'est bien évidemment que le début, comme on l'a dit. Et nous vous souhaitons une excellente matinée, une excellente journée et, Lucas,
une excellente soirée.
Voilà, merci.
À bientôt.
À bientôt.